présente ce ramassis d'intellect. Vous avez devant vous des étudiants qui sont en première année de théologie, c'est-à-dire après deux années de formation déjà, et puis deux, trois, quatre, cinquième année. Et puis vous avez des étudiants en licence canonique, en première année ou en deuxième année. Et puis vous avez des étudiants qui sont venus travailler il y a plusieurs années ici, et comme nous avons ouvert votre session de façon plus large, donc j'en vois au moins un, le père, j'oublie toujours son nom, celui qui a un nez pointu là. Dis-moi ton nom, j'ai oublié. Oui, toi. François-Régis Favre, qui a étudié ici il y a longtemps, qui est prêtre dans le diocèse de Toulon. Et puis Olivier, là, qui est ici, qui est lui, est diacre du diocèse de Meaux, et qui a fait aussi ses études ici. Alors, parmi les diocèses différents, il y a la Pologne, le père Sébastien, qui est Fidei Donum à Montpellier. Il y a un peu de Versailles, un peu de Meaux, un peu de Vannes, un peu de quoi encore ? Du Puy, un peu de Reims, un peu... Ouais, ils ne savent pas trop où ils sont, ceux-là. Lui, là, c'est les missions étrangères de Paris. Ils sont plusieurs, Michel. Camouflède. Et puis, voilà, il y a aussi des personnes engagées dans leur chemin de vie communautaire qui sont ici pour se former pendant un an, deux ans, quelques années. Ouais, alors le père Jean-Miguel Garrigue, j'ai eu la joie d'entendre quand j'avais un peu moins de votre âge à Lyon, tard le soir, à Saint-Nizier, entre 20h et 22h, je faisais un cours sur les sacrements, je dormais la première heure et après je n'arrivais plus tellement c'était intéressant. Et on est vraiment très heureux que vous ayez accepté de venir, et vous avez 10 heures pour nous émerveiller de la beauté du Christ cosmique. Merci beaucoup.
Merci, Père.
Le Père Gilles Garcia va veiller à tout.
Il sera notre ange. Bon, nous allons invoquer l'Esprit Saint, si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, répand dans nos âmes la lumière de ton Saint-Esprit et brûle nos cœurs au feu de son amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Notre-Dame, trône de la sagesse. Tout le monde a les deux jeux de textes. Alors je vais commencer par m'expliquer au sujet de ces deux jeux de textes photocopiés. Ceux qui sont au fond, vous me précisez si ma voix baisse. Et vous verrez que peut-être pour les prochaines... Parce que je n'ai pas une voix qui porte fort, hein. Au besoin, je me lèverai aussi pour me faire mieux entendre aussi, si c'est nécessaire. Je ne connais pas l'acoustique de la salle. Donc, je ferai signe. Si, parce que souvent, on me dit que mes fins de phrases peuvent tomber. Donc, peut-être que les prochaines fois, il sera bien de couvrir mieux le premier rang, ceux qui veulent ne pas perdre des bouts de phrases. Je voudrais d'abord m'expliquer donc sur ces deux jeux de textes qui sont dus à ma faute, c'est que j'ai un peu confondu ce qu'on avait convenu avec le père Michelin, avec le père Étienne, et un cours que je dois donner à Madrid à la faculté San Damaso au mois de janvier prochain. Ils sont très proches puisque ce cours-ci c'était les grandes articulations de la christologie à partir du dessein de Dieu Et celui de Madrid, c'est les articulations de la christologie et de la pneumatologie. Donc, vous voyez, c'était deux sujets voisins. Du coup, vous avez dans les textes qui vous ont été donnés des choses qui touchent davantage à la pneumatologie. Nous verrons qu'en fait, il y a une articulation entre la christologie et la pneumatologie qu'il est très nécessaire à laquelle il est très nécessaire d'être attentif. Mais évidemment, notre cours est spécifiquement un cours de christologie, donc l'accent sera plus sur le Christ. Je vais vous présenter donc le Christ dans le dessein de Dieu, et les premières heures de cette session seront consacrées au dessein de Dieu. Dans les deux jeux de textes que vous avez le premier que vous avez photocopié vous-même, dans lequel je n'ai pas hésité à montrer un peu l'enracinement existentiel des questions que nous allons aborder. Par exemple, la question du dessein de Dieu, je donne à partir d'un livre de mémoire, j'explique comment je suis venu à m'intéresser au thème du dessein de Dieu. Dans le second ensemble de textes, alors là, nous avons des textes, je dirais, des pères, essentiellement des textes des pères, et essentiellement des textes d'un père sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui s'appelle Maxime le Confesseur, donc un père grec, un père qui écrit en grec en tout cas. Donc, c'est sur ces textes-là. Le premier jeu de textes, c'est plus pour vous, pour que vous ayez comme une sorte de background, d'arrière-plan sur lequel vont s'inscrire les questions que nous allons étudier ensemble ces jours-ci. Donc nous ne travaillerons pas directement sur le premier jeu de texte, mais je vous recommande de le lire de manière à voir un peu dans quel contexte les questions que nous allons aborder ont surgi. En revanche, le deuxième jeu de texte, celui que vous venez de recevoir, servira, nous l'aurons sous les yeux, et cela permettra que quand je cite un texte des pères, surtout de Maxime le Confesseur, ce ne sont pas toujours des textes faciles, ce sont des textes très denses, très riches, et donc il est nécessaire de les avoir sous les yeux. Donc vous pourrez donc vous reporter, je vous inviterai à vous reporter. Ils portent des petits numéros justement pour qu'on puisse les retrouver facilement. Quand je mets dans ce second jeu de texte, quand je mets idem, ça veut dire que c'est Maxime le Confesseur qui est le plus cité, comme vous pouvez voir. Le dessein de Dieu et la place du Christ dans le dessein de Dieu, ça fait l'objet d'un livre dont je vais vous donner des éléments dans cette session, mais ceux qui voudront pourront s'y reporter. Il se trouve ici, je crois, en bibliothèque, n'est-ce pas, Père Gilles ? Donc, j'ai votre exemplaire, mais je crois qu'il y a un exemplaire à la bibliothèque. Donc, ce livre qui est paru en 2011 s'intitule « Le dessein divin d'adoption et le Christ rédempteur » à la lumière de Maxime le Confesseur et de Thomas d'Aquin. Donc, pratiquement tout ce que je dirais se trouve déjà dans ce livre. Donc, ceux qui voudront approfondir plus dans le détail le contenu de cet enseignement pourront se reporter à ce livre. Dans l'introduction de ce livre, je montre que la question de la place du Christ dans le dessein de Dieu s'est posée à partir du moment où il y a eu un tournant que l'on peut caractériser comme un tournant anthropocentrique et christocentrique vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, autour d'un grand théologien scolastique, un grand franciscain scolastique, Dun Scot. C'est lui qui a opéré ce tournant. Jusque-là, la tradition des pères, et y compris les grands docteurs du XIIIe siècle, c'est-à-dire Saint Bonaventure, Saint Albert le Grand, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, sont tous dans la ligne des pères et dans la ligne de l'écriture d'une certaine manière, dans la ligne aussi du credo, pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel, et considère que le motif de l'incarnation, c'est notre salut. Credo de Nicée-Constantinople, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Sans se poser la question d'un possible, d'un pur possible, qui aurait été, est-ce que le Christ se serait incarné si l'homme n'avait pas péché ? Ça, ce type de problématique, elle est beaucoup plus typique du nominalisme qui apparaît justement avec Dun Scot dans ce tournant du XIIIe au XIVe siècle, où on se pose déjà cette question. Mais on la voit déjà se poser dans la Somme théologique, dans la première question de la Somme, sur les raisons de l'incarnation. On voit déjà qu'elle se posait au temps de saint Thomas, puisque saint Thomas se la pose en question, donc ça veut dire qu'on se la posait autour de lui. Mais allez, saint Thomas répond encore, comme répondent aussi les autres docteurs, vous voyez que sur ce point, il n'y a pas du tout de différence entre saint Bonaventure et saint Thomas, qui sont contemporains, l'un est franciscain, l'autre est dominicain. Donc, on dit souvent, cette option, c'est l'option thomiste. Non, ce n'est pas l'option thomiste. C'est une option qui est cette réponse sur le motif de l'incarnation, c'est-à-dire le Christ est incarné comme rédempteur, comme sauveur. Ce n'est pas du tout une originalité, une particularité de saint Thomas. C'est ce que tout le monde dit jusqu'au XIIIe siècle inclus. Mais ce qu'on ne va plus dire à partir du XIVe, et cela d'une manière... Alors c'est effectivement comme ça que l'école thomiste reste un peu seule à tenir cette position traditionnelle jusqu'au XIIIe siècle, alors que toute l'école franciscaine passe au nominalisme. Vous voyez, quand on dit école franciscaine, faire attention, parce qu'il y a l'école franciscaine d'avant Dun Scot, c'est Bonaventure, et qu'elle n'est pas toujours pareille que l'école franciscaine après. Et sur cette question, elle est différente. Elle est différente. Vous savez, le tournant, il est scotiste et il est nominaliste. Mais le nominalisme va avoir pignon sur rue jusqu'à la réforme. C'est la réforme qui, en fait, va provoquer la grande crise du nominalisme et va obliger... d'une certaine manière, va remettre en selle, si j'ose dire, saint Thomas, qui était tenu par une école dominicaine, parfois d'ailleurs elle-même assez influencée par le courant nominaliste. En particulier, même sur cette question, il y a eu des dérives, même à l'intérieur de l'école dominicaine thomiste. Et ça sera le XVIe siècle, autour du Concile de Trente, qui verra de nouveau un recentrage christologique, mais surtout évidemment sacramentaire, au moment de la Réforme. Parce que dans la Réforme, comme un très grand théologien qui venait lui-même du protestantisme l'a dit, je pense au père Louis Bouillet, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un grand nom de la théologie française qui a précédé le Concile, père Louis Bouillet disait, dans la Réforme, il y avait des revendications évangéliques qui étaient excellentes, qui étaient au fond portées par tout le monde, auxquelles d'ailleurs le Concile de Trente a pour une part fait droit, et ensuite, après le Concile de Trente, on a fait droit, et d'une certaine manière, le Concile Vatican II a été jusqu'au bout de faire droit aux revendications tout à fait légitimes de la Réforme, qui étaient des revendications pastorales, liturgiques, etc. En revanche, ce qui a tout perverti, en fait, c'est le nominalisme, c'est-à-dire le fait que rédiger en clé nominaliste, Ces revendications, ce sont en particulier en matière sacramentaire, se sont avérées désastreuses, puisqu'elles ont vidé, d'une certaine manière, la sacramentalité de ses fondements. Mais nous le verrons, c'est très lié à, aussi à la christologie. Donc, parce que c'est toute la dimension de la causalité seconde, de la médiation, de l'instrumentalité du Christ, etc., qui s'est trouvée comme vidée de son contenu. Du coup, à ce moment-là, c'est bien pour cela qu'on a vu, chose étonnante, au Concile de Trente, l'intronisation de la somme théologique, la somme de saint Thomas, au Concile. Elle était intronisée. Alors que ça peut même sembler choquant, parce que c'est on intronise la parole de Dieu. En Vatican II, c'était la Bible qui était intronisée. Mais là, on a intronisé la somme. Pourquoi ? Parce que dans la somme, néanmoins, il y avait ça. Il y avait cette instrumentalité du Christ comme fondant l'instrumentalité des sacrements, qui était la question cruciale à laquelle était affronté le Concile de Trente. Parce que c'était vidé par les protestants. En fait, pas tellement, disons, les revendications qu'ils avaient étaient légitimes, elles venaient d'un courant évangélique, de purification de l'Église, qui était tout à fait nécessaire, de désir de réforme de l'Église, qui était tout à fait nécessaire, mais qui s'est fait au détriment des fondements même, comme, selon l'expression qui est devenue célèbre, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a réformé au point de vider du son contenu la sacramentalité. Déjà, on a fait passer les sacrements de 7 à 2. Et puis, la conception même protestante, surtout calviniste, du sacrement, est telle qu'il reste, on se demande s'il y a vraiment une certaine efficacité, une certaine instrumentalité du sacrement. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé au point que je préparais le mariage de la fille d'amis qui a épousé un protestant. Un jeune protestant de Sévenol, d'une famille tout ce qu'il y a de plus protestante. Sa mère est conseillère presbytérale, elle est membre du conseil presbytéral. C'est-à-dire, en fait, c'est le conseil presbytéral qui, chez les réformés, gouverne la paroisse. Hein, et c'est pratiquement eux qui ont la charge curiale. Le pasteur, après, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui enseigne. Et ceux qui gouvernent la paroisse, c'est pour ça qu'on appelle l'église calviniste, on l'appelle presbytérienne aux États-Unis. Parce que c'est le groupe des anciens qui viennent de la paroisse, de l'assemblée paroissiale, qui sont élus et qui gouvernent la paroisse. Donc c'est un garçon qui venait vraiment d'un milieu, tout ce qu'il y a de plus pratiquant. Puis, au moment où je lui demande un extrait de baptême, il me dit, mais je n'en ai pas parce que je n'ai pas été baptisé. Et alors je lui dis, mais comment ça se fait que vous n'avez pas été baptisé? Il me dit, non, il dit, les pasteurs n'ont pas voulu. Mais en revanche, je suis admis à la communion, à la Sainte Cène. Et ça, c'est courant. À tel point que maintenant, vous savez qu'il y a eu une fusion en France, enfin une sorte de fusion ecclésiale entre réformés et luthériens, et un des évêques luthériens a quitté, est entré dans l'Église catholique, c'était le pasteur Vio, qui est devenu prêtre dans le diocèse d'Orléans, je crois, parce qu'il était obligé de recevoir à la communion ce que recevait l'Église réformée. Et parmi eux, il y avait des non-baptisés. Et évidemment, les luthériens sont quand même plus le sens de la tradition sacramentelle, et ça lui posait un problème énorme. Quel sens avait... Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il était déjà extrêmement catholicisant. Donc, mais évidemment, pour lui, ça a été le non-possumus. Ça a donné la communion à nos baptisés, depuis la Didaquée, c'est écrit dans un des textes les plus anciens qui sont contemporains des écrits du Nouveau Testament, ne donnez pas la communion à quelqu'un qui n'est pas baptisé. C'est l'arcane. Enfin, Mais ça indique quelque chose, ça indique. Alors, je vais voir les parents, parce qu'il me dit, mais vous, il faut que vous en parliez avec mes parents, je vais le voir. Et je leur dis, mais comment ça se fait que votre fils n'a pas été baptisé? Et ils me disent, mais parce que, ah, mais c'est que chez nous, le baptême n'est pas un sacrement comme chez vous. Je dis, écoutez, ça c'est extraordinaire, parce que les réformateurs ont ramené les sacrements de 7 à 2, mais enfin, le sacrement du baptême et de la Sainte Cène, ils y tenaient beaucoup quand même. Oui, mais voyez, ils y tenaient, oui, mais sur des bases au fond tellement fragiles que ils ont, des protestants actuels, fervents pourtant, enfin tout à fait pratiquants, etc., en sont convaincus que ce n'est pas des sacrements, ce sont des gestes. Au fond, ils ne voient pas tellement la différence entre baptiser et admettre, recevoir dans l'Église. Parce qu'il n'y a pas du tout d'instrumentalité. C'est-à-dire, on fait un geste ecclésial, mais c'est l'Église qui le fait. Ce n'est pas le geste du Christ. Ce n'est pas un geste divino-humain. C'est un geste simplement ecclésial de la communauté. Et Dieu donne la grâce, parallèlement. Et ça, c'est le Père Bouillet qui m'avait attiré mon attention de cela. Il m'avait dit un jour que quand il était devenu catholique, il était pasteur luthérien. Et il m'a dit, je me suis fait rebaptiser. Je dis, père, mais quand même. Alors, j'étais choqué, enfin un homme aussi d'une telle envergure, et puis très ouvert au plan œcuménique, etc. Je dis, mais enfin, vous reconnaissez quand même qu'il n'y a qu'un seul baptême, et que quand le baptême est donné validement dans l'Église réformée ou luthérienne, etc., il est valide, l'Église catholique le reconnaît. Alors je dis, mais bien sûr, mais le problème, c'est qu'il faut encore qu'il soit donné validement. Je vais vous montrer comment, où peut être le problème et comment il a été pour moi. Il m'a dit, j'ai été comme jeune vicaire pasteur, j'ai accompagné un pasteur à Strasbourg qui était celui qui m'avait baptisé moi-même. J'étais jeune pasteur et je trouvais que ce pasteur plus âgé était celui qui m'avait baptisé. Et il baptisait ce jour-là un bébé qui était très enrhumé. Alors, il a versé de l'eau en disant les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » soigneusement à côté de la tête de l'enfant pour que l'enfant ne risque pas de s'enrhumer. Alors, j'ai cru qu'il était vieux et qu'il ne voyait pas très bien exactement où il versait l'eau, ben ça peut arriver. Et en arrivant à la sacristie, j'ai dit, monsieur le pasteur, est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'eau n'a pas touché la tête de l'enfant? Il me dit, mais bien sûr, je l'ai fait exprès pour qu'il ne s'enrhume pas. Et j'ai dit, mais il n'a pas été baptisé. Je lui dis, il n'a pas été baptisé. Il me dit, mon cher ami, mais vous n'en êtes pas encore là. Vous n'êtes pas dans la magie des catholiques de croire qu'il faut que l'eau touche l'enfant pour qu'il soit baptisé. J'ai posé le signe et Dieu a donné la grâce. J'ai posé le signe et Dieu a donné la grâce. Vous voyez, deux lignes parallèles qui se rejoignent occasionnellement, comme on dira, c'est ça l'occasionnalisme. Et il m'a dit, quand il m'a dit ça, quand je suis devenu catholique, je me suis souvenu, j'ai demandé un baptême sous condition, parce que je me suis dit, au fond, je ne sais pas si j'étais enrhumé. Et s'il m'a baptisé comme ça, eh bien, je ne suis pas baptisé, donc mon ordination sera invalide et tous les actes sacramentels que je poserai dans l'Église catholique seront invalides. C'est très grave. Je sais que c'est arrivé aux États-Unis comme ça, qu'il s'est avéré qu'un évêque, quelqu'un qui est arrivé jusqu'à l'épiscopat, ben oui, mais c'est que son baptême était invalide, il l'a su. Du coup, tout. Alors vous imaginez, il a fallu reprendre des ordinations, etc. Mais oui, c'est très très grave. Et ne croyez pas que l'Église supplée dans ce cas-là, parce que c'est vraiment l'élément divin, quoi, je veux dire, posé par le Christ. Ce n'est pas des choses de l'Église supplée aux choses que l'Église elle-même ajoute, ou à des conditions que l'Église elle-même ajoute, mais qui ne viennent pas du Christ lui-même. L'Église ne peut pas changer ce que le Christ a demandé. Et baptisé dans l'eau et dans l'esprit. Il faut qu'il y ait les deux, l'eau et l'esprit. Et l'esprit est donné à travers l'eau. Et il faut que l'autre touche. Et ce n'est pas de la magie, puisqu'au contraire, on se met au service de l'action divine. La magie, c'est quand on manipule, quand par des gestes, etc., on veut contrôler la puissance divine pour ceci ou pour cela. Ça, c'est de la magie. Mais pas de la magie. C'est l'instrumentalité. Et donc, cette question est une question très importante. Et effectivement, pour renouer avec la question du dessein divin, je vais aller voir comment tout ça se tient. Jusqu'au XIIIe siècle, on est convaincu que le Christ est le grand instrument du salut, le grand moyen, l'unique central moyen de salut. Mais le but de Dieu, ce n'est pas le Christ. Le but de Dieu, c'est ce que le Christ opère, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. C'est ça le but de Dieu. Le Christ est le moyen suprême que Dieu utilise à la suite du péché. Mais le Christ n'est pas le but. On est tous les pères grecs en particulier, mais latins aussi, se posent la question du scopos, ce qu'ils appellent le scopos, en grec, but.
En latin, propositum, souvent. Il y a plusieurs mots. Scopos. Vous trouvez ça, par exemple, chez Grégoire de Nice. Si vous lisez les écrits ascétiques de Grégoire de Nice, dans le De Instituto Christiano, dans le De Perfectione Christiana, vous trouvez ça. Quel est le but divin? Le but divin, c'est la divinisation. C'est de faire de nous des enfants de Dieu. C'est l'adoption filiale. Ce n'est pas le Christ. Le Christ est le moyen de cela. Avec Dascot, on bascule. Et c'est le Christ lui-même qui devient le but. Il n'est plus un moyen. Le père Bouillier a des pages sévères sur ce tournant. Vous pourrez lire dans son livre « Le Fils éternel », à la page 473, qu'il appelle « Les paralogismes de la théorie scotiste ». Quel est le tournant? C'est que Dascot ne considère plus le Christ comme le sauveur qui nous conduit vers le but divin. Ce but, il a été perdu en Adam par la perte de la grâce, l'adoption filiale, car Adam, il était fils de Dieu dans la grâce, il a été créé en grâce. Ce n'était pas une grâce christique, c'était une grâce comme celle des anges. C'était une grâce qu'il assimilait au fils, ça c'est sûr. C'était une grâce d'adoption filiale. Il n'y a pas de grâce sanctifiante qui ne soit une grâce d'adoption filiale. Elle nous configure toujours au Fils éternel, mais pas forcément par le moyen du Christ. Les anges n'ont pas été faits en fils de Dieu par le Christ. C'est antérieur, évidemment, à l'incarnation. Et le Christ ne s'est pas angélisé pour sauver les anges pécheurs, qui étaient de toute façon c'était damnés par une obstination définitive. Donc il y a une adoption filiale chez les anges et chez Adam. Vous voyez la généalogie de Luc qui remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Et les anges sont appelés fils dans des quantités de psaumes, dans le livre de Job, dans beaucoup de... Quand vous voyez des fils de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est les anges. Et subséquemment Israël, qui entre, commence à entrer dans une adoption filiale, mais qui est déjà en vue du Christ. Puisque à partir du péché d'Adam... Il ne peut pas y avoir d'adoption filiale d'autre que celle qui vient du Christ. Rétrospectivement, si vous voulez, par anticipation, mais c'est déjà, bien sûr, en fonction du Christ. Il y a une centralité absolue du Christ dans l'ordre de la rédemption. Mais il n'y a pas forcément une centralité absolue du Christ. Il y a une centralité du Fils, ça c'est sûr, mais pas forcément une centralité du Christ dans l'ordre, dans le dessein créateur. Sauf si on se dit Dieu sait tout, bien sûr, et en créant, il voit tous les moments du temps au présent de son éternité, donc il voit le péché d'Adam, et donc il voit aussi le Christ, etc. Et c'est ce qu'on a chez saint Paul. Nous avons été adoptés dans le Christ, parce que Dieu voit tout. Donc c'est un acte
divin dans lequel toute la réponse, la non-réponse, les économies successives du dessein de Dieu pour les hommes sont incluses. D'où ce double sens que nous avons d'économie chez les pères, qu'on voit déjà chez Irénée, à la fois au singulier, une économie divine parce qu'il n'y a qu'un unique dessein, avec un unique but, scopos, que les latins appellent souvent propositum, qu'est-ce que Dieu se propose ? Petite remarque, le but n'est pas la fin. Dieu n'a d'autre fin que lui-même, que sa propre bonté. Après, la manière dont il communique sa bonté, d'abord, il n'est pas obligé de créer. S'il n'avait pas créé, il aurait été aussi bien heureux que s'il avait créé. Je veux dire qu'il n'y a pas de dialectique de l'être divin qui fait qu'il aurait besoin de créer pour être Dieu. Non, pas du tout. C'est par pur. C'est là où vous voyez que la transcendance de l'être divin, ipsum esse subsistens, je suis celui qui suis, est la clé de l'agapé. Il ne peut pas y avoir d'agapé, d'un amour totalement gratuit, que celui d'un être qui a la séité divine. C'est-à-dire qu'il n'a pas absolument pas besoin de la créature. Sinon, ce n'est pas un amour totalement gratuit. Sinon, on entre dans un Dieu qui a besoin du monde pour se réaliser. Ce qu'évidemment, depuis Hegel, est devenu très parlant dans la sensibilité, dans l'imaginaire de notre culture. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Je veux dire, c'est plus l'agapé, c'est un éros. C'est un éros, c'est une forme d'éros. Nous ne connaissons jamais l'agapé à l'état pur. Parce que nous sommes des créatures. Ça a été la grande erreur spirituelle de Madame Guyon et de Fénelon à la fin du XVIIe siècle en France, que de penser que la créature pouvait avoir un amour totalement pur et désintéressé. Mais non. Alors, ce que nous appelons charité dans le cas de l'homme, c'est quand l'élément oblatif et altruiste finalise. Alors, mais il y a toujours, il assume une part de réalisation de la créature. C'est la béatitude, le désir de béatitude. J'ai besoin d'être heureux. La fille qui devient missionnaire de la charité part dans un mouroir de Calcutta. Dans cette oblation qu'elle fait d'elle-même, elle trouve son bonheur. Et heureusement, elle a besoin de ça. Mais là où apparaît la charité, c'est qu'elle ne trouve pas son bonheur dans n'importe quoi. Elle le trouve, son bonheur, en rendant les autres heureux, en les soignant, tout ça. Et elle trouve là son bonheur. Mais elle se réalise. Dieu n'a pas sa béatitude. Il est béatitude. Il n'a pas besoin de trouver sa béatitude d'une manière ou d'une autre. Voyez. Donc, c'est pour ça que le but, pour Dieu, le but est libre. Un but, c'est quelque chose que je détermine moi-même. Il n'est finalisé que par sa propre bonté et par sa propre vérité. Ce qui fait que, par exemple, Dieu ne fera pas du contradictoire. Non pas parce que ça limiterait sa puissance, mais parce que c'est une puissance monstrueuse et aberrante. Dieu peut faire un monde dans lequel il n'y ait que des cercles ou un monde où il n'y ait que des carrés, mais il ne fera jamais un monde où les cercles seront carrés. Le contradictoire dans les termes n'a strictement aucun sens. C'est une imperfection, ce n'est pas du tout une perfection. Donc il est tenu par sa bonté, c'est-à-dire par sa propre perfection, qui inclut la vérité. Donc, mais sinon, après qu'il ait choisi de créer ou de ne pas créer, de nous créer en grâce ou de ne pas nous créer en grâce, etc., ça fait partie du but. Et c'est un grand mystère d'amour. C'est un mystère dans lequel il y a sa vérité, mais il y a plus encore son amour, son agapé, son amour totalement gratuit. Et donc ce scopos, eh bien, c'est notre adoption filiale, c'est l'adoption filiale des créatures spirituelles. Les anges, les hommes, nous ne savons pas, peut-être d'autres créatures spirituelles dans le cosmos, au fond, on ne peut pas l'exclure d'office. Il y a une paternité de Dieu, une paternité adoptive sur les créatures spirituelles. Les créatures matérielles, elles, ne sont pas ordonnées à Dieu lui-même, elles sont ordonnées aux créatures spirituelles. Et surtout à ces créatures spirituelles que nous sommes, qui sommes à la frontière du spirituel et du corporel, du matériel. Nous avons besoin du cosmos, même pour advenir à l'être, à travers notre corps. Donc, voilà le scopos. Et ce scopos, c'est l'adoption filiale. Une adoption filiale, donc, qui nous configure à celui qui, dans la Trinité, est le Fils éternel, le Fils unique. Vous remarquerez que Jésus ne dit jamais « notre Père ». Il dit « mon Père et votre Père ».« Mon Père et votre Père ». Il est le Fils unique. D'où nous sommes des fils adoptifs, dans le Fils. Donc, configurer toutes, que ce soit les anges, Adam et nous autres, nous sommes tous configurés au Fils. Et le Fils, que cette configuration de grâce au Fils ne soit donnée par l'incarnation, ça, c'est lié au fait que, en Adam, nous sommes devenus réfractaires à cette grâce d'adoption filiale. Nous l'avons perdue et nous nous sommes dégradé et fermé à cela. Donc il y a une nécessité de recréation qui se fait par le nouvel Adam. Voilà comment les pères voient les choses, et nous verrons que Saint Maxime le Confesseur n'y fait pas du tout exception, contrairement à ce qu'avait cru Urson Balthazar, et souvent on a cité Maxime comme disant il, avant même d'un Scott, il tenait déjà la position anthropocentrique. Alors, c'est vrai que le magistère n'interdit pas la position scotiste, et encore moins la position néo-scotiste, qui est celle qu'on trouve aujourd'hui très répandue chez les théologiens, qui est de dire, parce que pour Scott, Dieu a voulu créer le Christ comme adorateur parfait. Le raisonnement de Scott, au fond, se fait par parallèle avec le raisonnement de saint Anselme. Dans saint Anselme, dans le cours des Deus Homo, se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu se fasse homme? Et alors il dit, c'est parce que l'offense ayant été infinie, l'offense du péché originel ayant été infinie, l'offense à Dieu, il fallait la réparer par une réparation infinie. Et cette réparation infinie, seul le Fils de Dieu se faisant homme pouvait réparer cette offense infinie faite à la majesté de Dieu. Et Dean Scott a repris ça en le déplaçant de la réparation à l'adoration. Ah, alors là, on pouvait sortir du péché. Puisqu'il a raisonné comme ça, Dieu voulait, en créant l'homme, recevoir de lui une adoration infinie, parfaite. Seul pouvait donner cette adoration le Fils de Dieu en se faisant homme. Donc, avec le péché ou sans le péché, il fallait qu'il y ait un adorateur parfait. Donc, un Dieu fait homme, donc un Fils incarné qui donne à Dieu cette adoration. Et à la limite, cela étant accompli, que les hommes aillent en enfer ou pas, c'était relativement indifférent. On sortait complètement de l'instrumentalité. C'était la réalisation parfaite de l'adorateur parfait qui est le but de Dieu. Et on se demande pourquoi il a créé tous ces millions d'hommes, etc., puisqu'au fond, cet adorateur parfait n'avait pas grand-chose à faire avec lui, avec eux. Alors, la thèse néo-scotiste, plus personne ne tient cette thèse scotiste pure, elle est totalement intenable, je veux dire. Mais en revanche, est devenu très, très, très répandu chez les théologiens, je pense majoritairement, la thèse du fait que le Christ se serait de toute façon incarné pour être médiateur de la divinisation. Même si l'homme n'avait pas péché, il aurait eu besoin d'être divinisé. Adam et l'humanité adamique auraient dû faire un chemin vers Dieu. Et dans ce chemin vertueux, il aurait eu besoin que le Fils s'incarne pour communiquer aux hommes la grâce divinisatrice de l'adoption filiale. Alors, qu'ils avaient déjà, mais l'amener à sa perfection, en quelque sorte. Sans lui, ils n'auraient pas pu l'amener à la perfection. C'est une thèse qui peut se tenir en doctrine catholique. Elle a des gens tout à fait estimables et éminents qui la tiennent. Je pense par exemple à Mgr Ladaria, le secrétaire de la Congrégation de la foi, niente di meno, comme on dit en italien, il n'y a rien de moins, qui est un grand tenant de cette thèse néo-scotiste, qu'il a écrit dans presque tous ses livres, enfin qu'il a beaucoup écrit sur la christologie, toujours dans ce sens-là. Alors, c'est plutôt les tenants dont je suis de l'autre thèse, de la thèse ancienne, qui devront dire attention, que ne croyez pas, c'est pas parce que Mgr Ladaria la tient qu'elle fait partie du magistère. Il la tient en tant que théologien privé, parce que c'est effectivement quelque chose que l'on peut tenir, mais on peut considérer aussi ce qui était là, ce que pensait plutôt l'Église ancienne et jusqu'au docteur du Moyen-Âge, que une humanité adamique ne faisant pas obstacle à la venue invisible par la grâce des personnes trinitaires dans l'âme, aurait été guidée par le Verbe sans que les Verbes aient à s'incarner. Elle aurait été filialisée par la grâce. Est-ce que l'incarnation vient du fait que Dieu ne pouvait plus habiter en nous? Il fallait qu'il vienne à travers le sensible, en prenant chair en un individu, de manière individuelle, à travers une chair individuelle, à travers des paroles individuelles, etc. C'est l'opacité du péché qui exige l'incarnation. Mais à partir du moment où l'humanité n'aurait pas péché, on voit dans la Genèse Dieu qui venait se promener à la brise du soir dans le jardin d'Éden. Ça veut dire qu'il y avait donc une intimité très profonde de l'homme, de l'humanité créée en grâce, avec la vie trinitaire qui venait l'habiter. Et donc, d'une certaine manière, elle aurait été guidée par les missions invisibles jusqu'à la divinisation. Donc, il y a une autre manière de voir les choses, et effectivement, on peut argumenter assez solidement pour dire qu'on ne voit pas la nécessité de l'incarnation quand il n'y a pas le péché. Quelle nécessité y avait-il que Dieu se fasse homme en un individu à un moment du temps si ce n'était pas pour réparer au nom de tous? Là on rejoint Anselme, si vous voulez. Effectivement, dans le cas de la réparation, effectivement, quelque chose qui se fait en un individu peut avoir une répercussion pour tous. Mais pour la divinisation, c'est beaucoup moins net, c'est beaucoup moins compréhensible. Parce que on n'a pas besoin d'être recréé à partir d'un nouvel Adam, si vous voulez, pour la divinisation. C'est plutôt un achèvement de quelque chose qui a déjà commencé par l'habitation des trinitaires qu'apporte la grâce sanctifiante. Donc, voilà, c'est comme ce que m'a demandé le père Étienne, c'est que je vous donne des articulations de la christologie. La christologie m'apparaît, cette christologie des pères et des christologies de saint Thomas encore, la christologie encore du XIIIe siècle, m'apparaît comme articulée autour de deux notions fondamentales, de deux principes. L'un, c'est l'instrumentalité du Christ. Mais qui dit instrument, dit fin. On est instrument pour quelque chose, pour réaliser quelque chose. Si le Christ est instrument de Dieu, c'est pour quelque chose. Or, ça, c'est la finalité, c'est l'adoption filiale. C'est la finalité. Donc, instrumentalité, incarnation. Mais incarnation rédemptrice,
surtout si on la considère dans sa réalisation effective, et finalité, adoption filiale, donc don du Saint-Esprit. Grâce, grâce sanctifiante. Et donc, don du Saint-Esprit. D'où l'articulation avec la pneumatologie. Le Christ, il vient, qu'est-ce qu'il dit à la fin de l'évangile de Saint-Luc ? Je vais partir pour vous donner le Saint-Esprit, ce que Dieu a promis. Il n'est pas le terme, il n'est pas le but. C'est le Saint-Esprit qui va nous introduire dans quoi ? Ben dans l'adoption filiale, en faisant de nous des fils dans le Fils, et donc en nous introduisant dans la relation que le Fils entretient avec son Père, qui est la communion d'amour. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner, qui est l'esprit de filiation, l'esprit d'adoption filiale. Donc, vous voyez, le Christ, instrument du Père pour le salut des hommes, nous communiquant la promesse du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui nous fait entrer dans la communion avec le Père. Alors ça, c'est à l'articulation de deux de mes livres, donc l'un d'eux, je vous l'ai présenté, c'est le dessein divin d'adoption et le Christ rédempteur, et l'autre, c'est un livre qui s'intitule « Le Saint-Esprit, sceau de la Trinité », sceau, S-C-E-A-U, hein, sceau de la Trinité, c'est-à-dire où j'étudie le Saint-Esprit dans la Trinité, dans son origine, la question du filioque, etc., l'articulation trinitaire entre le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi dans la seconde partie du livre, j'étudie l'économie du Saint-Esprit dans toute la vie de l'Église, dans le magistère, dans le ministère sacerdotal, dans les sacrements, dans tout cela. Parce qu'il y a toute une lecture pneumatologique. Dès que nous nous posons la question de la fin, dans les médiations divines, excusez-moi, vous me ferez faire attention pour vous me préviendrez pour la pause. Dès que nous nous posons la question de la fin, nous voyons l'articulation entre instrumentalité et finalité. Un instrument n'existe jamais pour lui-même. Il n'y a rien de pire que de vouloir faire exister l'instrument pour lui-même, de prendre l'instrument pour la fin. Et c'est très important dans la vie de l'Église. Parce que si vous faites de l'instrumentalité la fin, eh bien, c'est la hiérarchie des ministères qui est la fin de l'Église. Excusez-moi, mais ça s'appelle le cléricalisme. Et si vous comprenez vraiment ce qu'est la hiérarchie des ministères, vous comprenez que l'Église, elle est faite pour la sainteté. Et qu'il y a une hiérarchie des ministères, certes, au niveau instrumental, en cette vie, mais pour produire une hiérarchie ultime, qui est celle de la vie éternelle, du ciel, dans laquelle ce qui est au sommet de la hiérarchie, eh bien, c'est la plus sainte, c'est la Vierge Marie. C'est pas Saint-Pierre. Et ça, c'est quelque chose que Jean-Paul II a beaucoup, beaucoup développé et dont il a laissé l'expression dans le testament spirituel et doctrinal de Jean-Paul II, qui est la lettre apostolique « Novo Millennio in Unite » à l'entrée d'un nouveau millénaire, où il dit que tout doit être vu dans la perspective de la sainteté. De la sainteté. Les sacrements, la prédication, la mission, etc. Le but, c'est de nous faire vivre de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? C'est la charité. Et c'est pour cela que la hiérarchie ultime, ben c'est la hiérarchie des degrés de vision béatifique qui correspondent au degré de la charité. Et dans lequel, évidemment, la Vierge Marie est en haut. Et ça, c'est ce vers quoi. Et ça, c'est la dimension pneumatologique. Seulement, ça ne peut nous être donné que par le Christ. Le Christ qui lui-même est plein de l'Esprit Saint, et le Christ qui est, lui, le modèle, l'archétype de la filiation, et le seul qui peut nous recréer
nous nous donner vraiment d'entrer dans cette vie de sainteté. Donc à la fois, vous voyez, c'est très subtil et c'est là que ça s'est cassé dans la réforme, c'est qu'il faut tenir la nécessité absolue de la médiation christologique, parce que nous avons été créés dans le Verbe, nous avons été créés dans le Fils, etc., et nous sommes recréés dans le Fils incarné, et en même temps ne pas faire de tout ce qui vient du Christ, de toutes les médiations qui viennent du Christ, une fin. Ne pas déconnecter cet ordre des moyens de l'ordre de la fin, car l'instrument est ordonné à la fin. Si quelqu'un a le catéchisme de l'Église catholique ici sous la main, je pourrais vous citer un texte du catéchisme qui est particulièrement lumineux sur la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ici le catéchisme oui, alors c'est dans les... Mais ça va être trop long. Je vous le trouverai pour demain.
Je vais
le
mettre
ou entre dans la pause. On va le trouver dans la pause. Ce que dit ce passage du catéchisme, qui vient d'ailleurs de... C'est la pause. Alors, ça peut être très bien.